Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine tu barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh haye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et motbakh na.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre!
Ben alors, bonjour Melchior Mponimpa.
Bonjour. Oui, c'est super. Très bien.
Vous êtes né au Burundi en 55 et vous êtes professeur émérite, docteur en philosophie, et vous avez enseigné au département des sciences religieuses de l'Université de Sudbury pendant une trentaine d'années, publié une dizaine d'essais sur l'Afrique des Grands Lacs notamment, 7 romans dont plusieurs ont été primés. Vous êtes auteur de 5 essais sur la critique de la politique en Afrique et vous vous êtes converti à la fiction depuis 2001. Vous avez introduit vraiment l'imaginaire africain dans la littérature canadienne-française. Vos 3 romans premiers ont été primés et le 4e finaliste au prix Trillium 2009. Alors, vous, c'est la langue, hein? C'est le fait littéraire, la réflexion qui a mené votre vie tout le temps.
J'ai aucune idée. La langue, le fait littéraire, ça aurait pu, à vrai dire, pas tout le temps, disons.
La philosophie, alors.
Pas tout le temps. Disons, quand j'étais jeune, à l'école secondaire, si j'avais eu le choix de faire mes études, j'aurais certainement fait les études dans une faculté d'études françaises ou de littérature.
Donc de littérature.
Mais c'était à une époque et un lieu où on n'avait pas beaucoup de choix, c'est-à-dire on nous mettait dans des facultés où il y a de la place.
C'est bon là-dedans, on te met là.
Oui, c'est un peu comme ça que j'ai abouti en philosophie.
Okay.
Je n'aimais pas. Pas beaucoup, mais l'appétit vient en mangeant, dit-on. Okay. J'ai fini par adorer la philosophie. Je pense qu'après coup, ça a été une chance pour moi parce que, étant donné que je devais piocher beaucoup, ça m'a discipliné mentalement. Des études de littérature ne m'auraient pas discipliné, ça aurait été peut-être trop facile. Plus grave, je risquais de me noyer dans les sentiments, je pense.
Ok,
ouais.
Vous êtes un émotif,
ouais.
Un romantique.
Trop. Et avec la philosophie, ça m'a discipliné.
Ok.
Quand je suis arrivé au Québec, parce que au Canada, je suis arrivé d'abord à Montréal,
okay.
C'est normal, c'est pour un francophone, pour les francophones du monde entier. Quand on vient au Canada, le point de chute naturel, c'est le Québec. Et au Québec, c'est Montréal, c'est comme ça. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de francophones. J'ai été nouvel arrivé, comme tout le monde. À ce moment-là, j'avais un problème, le problème de tous les immigrants. Pour l'emploi, on vous demande l'expérience canadienne. Et c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, si on vous demande l'expérience et que vous... On ne vous permet pas d'acquérir cette expérience.
Comment s'en sortir?
Oui, je m'en suis sorti en faisant un autre doctorat.
D'accord.
Mais c'était plus cool parce que j'en avais déjà un en poche. J'ai commencé un doctorat en sciences religieuses.
C'était où? À quelle université?
À l'Université de Montréal.
Ah.
J'ai eu un emploi avant de le terminer. Je suis venu ici à Sudbury pendant que j'étais encore au doctorat à
D'accord.
l'Université de Montréal pour mon
comme
deuxième...
professeur. Vous
ici.
Avez eu un emploi comme professeur
oui.
ici.
Oui, mais j'ai continué, j'ai fini parce que j'étais presque au bout.
Ben, c'est parfait que vous ayez pu avoir cet emploi parce que souvent, on n'y arrive pas, alors tant mieux.
Je sais, mm-hmm. Je dis à tout le monde que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'en connais des immigrants qui n'étaient pas moins intelligents que moi, qui n'avaient pas moins de diplômes que moi, même avec 2 doctorats et qui ont fini comme taximan ou... Je sais pas, laveur de voiture, mais j'ai eu de la chance, simplement.
De grandes compétences aussi, mais c'est vrai que plusieurs personnes sont très compétentes et n'arrivent pas à trouver des emplois dans leur champ de
oui,
compétences.
Oui.
Hein.
C'est clair.
C'est ça. Mais vous, si on recule dans votre parcours, Vous êtes d'origine burundaise et c'est la situation politique au Burundi qui vous a fait quitter le Burundi.
Oui, absolument. Oui. J'ai jamais été réfugié, curieusement. Mm-hmm. Mais j'ai quitté le Burundi, même avec un passeport, mais avec l'intention de ne plus jamais y remettre les pieds. Parce que c'était vraiment dangereux. J'ai tourné autour du pays pendant des années. J'ai fait mes études au Rwanda, j'ai fait mes études au Congo, au Kenya, avant d'aller en Europe, en Italie, pour faire mon doctorat de philosophie. Au début, je pouvais prendre le risque de retourner dans mon pays pour un mois ou deux mois pour voir ma mère, etc. Jamais plus. Et à un certain moment, même le petit mois, c'est devenu trop dangereux parce que j'ai failli être mis en prison. Ça, c'était en 85. À l'époque, toute personne alphabétisée, disons, du groupe ethnique des Hutus au Burundi était en danger permanent parce que ça représentait une éventuelle concurrence. Pendant 21 ans, je n'ai pas été capable d'y retourner.
Maintenant que vous êtes à la retraite, c'est quoi votre émotion par rapport au Burundi?
De la gratitude, d'abord, parce que quelle que soit la situation, un endroit où vous êtes né, vous restez attaché. Et objectivement, j'ai été bien formé dans mon pays d'origine. C'est-à-dire, j'ai été dans des écoles de missionnaires qui formaient bien les enfants, les quelques enfants qui pouvaient y avoir accès, et qui m'ont protégé pendant que d'autres qui étaient dans d'autres écoles se faisaient massacrer. Disons que la base de ma formation, c'est quand même mon pays d'origine qui m'a donné ça. Donc j'ai de la gratitude pour ça. Après 21 ans d'exil, depuis maintenant une quinzaine d'années, je peux y aller sans craindre d'y laisser ma peau. C'est de la gratitude pour ceux qui ont lutté, plus que moi, parce que j'ai lutté aussi, mais qui ont fait en sorte que la situation change, souvent en y laissant leur peau.
Vous y retournez, vous avez quand même des gens à visiter qui restent de votre famille, qui ont pu survivre.
Absolument,
Et vous êtes bien accueilli quand même, malgré que peut-être des gens disent « Ah, il a quitté, il ne s'est pas battu à nos côtés. »
Non, non, ils savent que je me suis battu, disons, autrement. C'est-à-dire autrement, ils le savent. Les fronts sont multiples, en fait. C'est-à-dire, essayer d'informer ou de se battre contre la désinformation, parce que tout régime au pouvoir a les moyens de monopoliser les moyens d'information, c'est-à-dire de désinformer l'extérieur. Ouais. Beaucoup d'entre eux me demandaient de rester à l'extérieur, justement pour être capable de parler.
Donc vos liens sont très proches encore de tout ça. Mais maintenant, vous avez quand même fait votre vie, vos racines ici à Sudbury. C'est quoi Sudbury pour vous?
Il y a beaucoup de choses qui vous attachent à un endroit où vous avez passé plus de 30 ans. Mais il y a surtout le fait que, en devenant écrivain, en fait, ça m'a permis de m'intégrer beaucoup plus profondément que le fait d'être prof ou d'écrire des essais ou des textes savants, parce que le milieu a adopté l'écrivain beaucoup plus que le prof ou le savant, ou je sais pas quoi. Donc, j'ai pu m'intégrer ou être intégré, c'est-à-dire les autres ont fait beaucoup pour m'intégrer, il faut que je le dise.
On est fiers de vous ici, que vous êtes écrivain, que vous veniez de Sudbury, que vous, t'sais, vous êtes une image publique de la francophonie de Sudbury en même temps.
Je pense, et
un
ça m'a...
ambassadeur.
Ça m'a beaucoup aidé. Parfois, je raconte une blague, mais c'est pas une blague, c'est la vérité. C'est que quand je suis arrivé, mon épouse était plus populaire ici parce qu'elle était travailleuse sociale.
Okay.
Donc, elle se promenait partout et connaissait les gens la connaissaient, etc. Et ben, quand les gens me rencontraient sur la rue, comment elle a pris mon nom.
Okay.
Et puis, les gens me disent, ah, tu es le mari de Marguerite? Et oui, je suis son mari. Et puis, quand je suis devenu écrivain, c'est l'inverse qui se passe. Les gens lui demandent « Ah, tu es l'épouse !»
Ok, d'accord.
À un certain moment, l'amour de la langue, c'est jamais parti. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à travailler comme prof à l'université, il a fallu que je publie des textes universitaires. Et bien, quand on est immigrant, on doit en faire plus que les autres, en fait. Mais je ne dois pas faire croire que ça a été difficile ou compliqué pour moi. C'est-à-dire, ça se faisait automatiquement. Mais à un certain moment, on ne peut plus monter de rang. Et c'était assez rapidement. 10 ans, je crois, après, j'étais professeur titulaire. Alors, je me suis senti absolument libre d'écrire et de publier ce que je veux parce qu'on ne va plus m'évaluer. Je ne peux pas monter de rang, je suis au sommet et ça, je suis retombé dans
la... Votre privilège, c'était ça. Je suis libre, je peux écrire tout ce que je veux sans craindre de perdre mon emploi, sans craindre de froisser personne. Et en fait, c'est là que...
Ça a été reconnu, ils ont continué à reconnaître ça aussi comme de la contribution. Parce que nous, on nous évalue sur 3 domaines. L'enseignement, évidemment, puisque nous sommes profs. Les publications, la recherche... mais aussi la contribution à la communauté. Et donc, mes écrits de fiction, ça a toujours été reconnu, pas explicitement, mais très certainement comme contribution à la communauté.
De rayonnement.
À la communauté,
Tout à fait. Tout à fait. Comment vous voyez aussi votre rôle ici à Sudbury? Vous êtes aussi une personne qui est arrivée d'Afrique et tout ce que ça peut vouloir dire dans un pays blanc... Colonisateur,
mais nous avons 2 concepts différents. La colonisation ici, quand j'écoute les Amérindiens me parler de colonisation, c'est quelque chose de très différent de ce que je connais de par mes origines. La colonisation, en tout cas en Afrique de l'Est, peut-être en Afrique de l'Ouest, peut-être ça peut être différent parce que l'esclavage a sévi essentiellement en Afrique de l'Ouest, à l'Est, beaucoup moins. Et dans une direction différente chez les Arabes. Mais c'était pas quelque chose de massif. Donc, la colonisation, c'est quelque chose de très temporaire finalement. Ça n'a pas duré plus d'un siècle dans mon pays. Ça a duré 75 ans. Puis, les colonisateurs sont partis. Ben, en laissant des remplaçants déformés qui ont permis le néocolonialisme. Mais c'est un concept beaucoup moins pesant, beaucoup moins lourd que ce que les Amérindiens appellent colonisation parce que ça a été plus long et parce qu'ils estiment que ça continue. Et pas de façon indirecte comme en Afrique, mais de façon précisément directe, etc. Je me souviens, mon premier roman, je voulais le publier en France parce que le sujet, le contenu, les décors, tout était absolument africain. C'est une immense saga de l'histoire d'une famille. Et moi, quand j'ai fini, c'est pas 500 pages. Je ne voulais pas le publier ici parce que je pensais que c'est trop loin, physiquement, c'est-à-dire géographiquement et culturellement, pour que ça intéresse les gens d'ici. Okay. Et donc, je pensais à des lecteurs africains quand j'ai écrit ce premier roman. Donc, j'ai envoyé ça à des maisons d'édition en France, en Belgique, en Suisse, parce que géographiquement, c'est plus proche de l'Afrique et même culturellement. Et puis, comme je ne suis pas d'ici, justement, j'ai pas de réseau, j'en avais pas à ce moment, de réseau, de maisons d'édition, etc. Même pour les textes universitaires, j'avais une méthode, je prenais 10 maisons d'édition et j'envoyais mon manuscrit à, je s'aimais à tout vent, disons. Mais ça, c'était des maisons en Europe. Et puis, tout à fait par accident, j'ai rencontré un certain Robert Dixon, le poète de la ville, finalement. Et il était mon collègue, il était prof de français, mais je ne le connaissais pas. J'ai passé 10 ans à Sudbury, mais cet individu-là, je ne le connaissais pas. Mais il était connu ici, dans le milieu culturel, parce que c'est tout un phénomène. C'est un anglophone qui a épousé la cause francophone, qui est publié, il a même eu le prix du gouverneur général pour un recueil de poésie en français. Mais moi, je l'ai connu par le biais de sa fille, qui était à Montréal et qui était avocate, et qui m'a invité au tribunal pénal international comme témoin expert, au tribunal pour les crimes du Rwanda, etc. Donc comme témoin de la défense. Pourquoi ? Parce qu'elle connaissait mes œuvres, mes livres académiques, mes livres sur la politique de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Est. Et puis tout à coup, mais je me suis rendu compte, elle s'est rendu compte que je suis collègue de son père, et puis
comme le monde est petit des fois, hein? Ou que le monde est grand, juste à côté de nous. C'est ça qui est fou, hein?
Il m'a mis en contact avec lui. Écoute,
puis à partir de là, vous avez pu être publié plus proche d'ici, c'est ça? Ou de se faire connaître davantage votre écriture ici?
Oui, je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. Ouais, exactement. Ouais, exactement. J'ai un manuscrit, je viens d'envoyer ça à 10 maisons d'édition. Et puis il me dit, est-ce que tu as envoyé ça à notre maison d'édition? Dit, votre maison d'édition, c'est quoi ça? Il dit, prise de parole, nous avons une maison d'édition francophone ici. Il a agité honteux parce que j'étais pas au courant du tout que l'aîné des maisons d'édition francophones hors Québec se trouvait ici. C'est prise de parole.
Ouais.
Et puis Robert Dixon a dit, est-ce que tu peux me donner une copie de ton manuscrit? Ben, je lui ai donné. Et il a pris mon manuscrit, il a proposé à prise de parole et ils ont accepté de publier le manuscrit.
C'était votre combien-tième roman, ça?
Le premier.
Le premier, premier.
Tout premier.
Excellent.
Après la publication, c'est les lecteurs. Je me disais, est-ce que ça va intéresser les lecteurs? Puis j'étais surpris que ça les intéresse. J'étais vraiment surprise. Mais ça, c'était pour le premier et pour le deuxième roman. Le deuxième roman était aussi très africain. Mais là, je me suis rendu compte que j'ai, en tout cas, deux types de lecteurs, deux catégories. Au commencement, j'écrivais en pensant à des lecteurs africains. Et puis, après, je me suis rendu compte que la majorité de mes lecteurs se trouvent ici.
Ok.
Je me suis dit, il faut être aussi juste dans le contenu et dans le décor. Je vais commencer à publier des romans qui parlent aussi bien de l'Afrique que du Canada, que de l'Amérique du Nord. Je n'avais qu'à publier des histoires qui me ressemblent, des aventures d'immigrants. Et ils viennent d'Afrique, donc il faut décrire l'Afrique. Ils y retournent, et puis, mais... Il s'intègre ici, comme je me suis intégré ici. À partir du troisième roman, tous les autres, sauf un, il y a un seul, l'avant-dernier, je crois.
Donnez-moi vos titres, là.
Oh là, je ne le connais pas. Bon.
Il ne connaît pas les titres de ses propres
romans,
alors.
Oui, le premier, c'est le Totem des Baranda. Le deuxième, c'est le Dernier Roi, Faiseur de Pluie. Le troisième, c'est La Terre sans Mal. Non, ça c'est le quatrième. Le troisième, c'est Les morts ne sont pas morts. Puis le cinquième, c'est La tribu de Sangwa. Il y a un personnage qui m'a fasciné. J'étais en train d'étudier autre chose, en fait. J'étudiais pour un livre académique. Et puis, tout à coup, le personnage m'a fasciné parce que j'ai trouvé que c'était un personnage qui nous dépassait, qui était fédérateur. Il a créé une religion. Au 15e siècle, quelque chose comme ça, qui a dépassé les frontières des ethnies, des royaumes, et qui est devenu un personnage important pour tous les royaumes de l'Afrique de l'Est. Puis je me suis dit, ok, j'ai parlé de lui.
C'est quoi son nom?
Diangombe.
Okay.
J'ai fait un roman sur lui, j'ai fait un roman historique sur lui. Parce que là, je n'avais plus peur qu'on ne me lise pas. Je savais que même si c'est exclusivement africain, on peut...
C'est universel au final, de toute
façon. Oui, ça c'était le
sixième.
Mais vous
ne m'avez pas nommé votre sixième.
C'est celui-là.
Ok. Le septième, alors?
Septième, c'est l'année passée qu'il est paru. C'est au sommet du Nanzergwe. Nanzergwe, c'est une montagne du Burundi, en fait.
Okay.
Il s'est assis et il a pleuré. C'est un long titre. Je l'ai maintenu parce qu'il est significatif.
Ben
c'est-à-dire,
oui.
C'est un immigrant qui... pensait ne plus jamais être capable de mettre les pieds à l'endroit où il était né. Et tout à fait par miracle, finalement. Parce que le miracle, c'est que les choses peuvent s'arranger plus vite que nous pensons.
Okay.
Et donc, le type, il était un peu dans ma situation. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai pensé que je n'y remettrais plus les pieds parce que je me disais, le problème, nos problèmes, c'est tellement profond que ça va nous prendre...
Plusieurs générations.
Des générations.
Puis finalement, ça vous réussissez à cohabiter, à recommencer, à vous côtoyer les uns les autres plus rapidement que vous pensiez.
Oui, j'en suis
donc,
fière.
Donc la
parce
paix
que...
arrive, la paix se peut. C'est ce que vous nous dites aussi au travers de tout ça. C'est
absolument.
Fascinant parce qu'on n'y croit jamais. Puis là, on est en pleine guerre en Ukraine au moment de l'entrevue. Puis on se demande où s'en va le monde encore, hein? Où s'en va le monde selon vous?
Je suis habituellement pessimiste, mais c'est avantageux parce que l'histoire vous surprend, justement. J'ai tendance à penser que les miracles dans l'histoire, ça n'existe pas. Je suis toujours un peu tétanisé par ce qu'on pourrait appeler la cruauté de l'histoire. Et puis, de temps en temps, il y a des surprises. Il y a des surprises comme la possibilité d'élaborer un modus vivendi dans mon pays. Ça m'a surpris. Et je suis fier de ma génération parce qu'elle y est parvenue. Je ne sais pas si les enfants vont suivre le bon exemple parce qu'on retombe parfois, souvent, dans les mauvais plis. Mais je ne fais pas exprès, c'est-à-dire je n'ai pas décidé d'être pessimiste pour pouvoir être surpris. Ce n'est pas comme ça que non, ça non. fonctionne.
Vous êtes fondamentalement, on pourrait dire, un pessimiste d'ouverture, ou de, je sais pas, ou des possibles, quelqu'un qui aime croire que tout est possible, malgré tout.
Réaliste, peut-être. J'ai aucune idée, je sais pas.
Je voulais vous demander, ici, quels sont les artistes d'ici qui vous inspirent?
Les artistes d'ici qui m'inspirent, c'est mes amis. Des poètes.
Oui, dont Monsieur Dixon, probablement.
Oui, oui, bien sûr. Des romanciers aussi. Jean-Marc Dalpé, il est vraiment intéressant. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas tellement la lecture de ses œuvres, mais c'est la dramatisation qu'il en fait lui-même. Parfois, on lui a demandé de venir au TNO lire l'entièreté de l'un de ses livres. Il est absolument époustouflant. Il y a un autre sur lequel je ne suis pas d'accord avec mes compatriotes sudbérois, parce qu'il est extrêmement critique de la ville, de la ville ancienne, j'imagine, parce qu'il en avait une image pas très positive, mais je le trouve absolument lumineux comme écrivain. À part ça, c'est Jean-Étienne Blais.
OK, Jean-Étienne Blais. Jean-Étienne Blais.
Ouais, j'ai lu un de ses romans et j'étais subjugué. C'est Entre toutes les femmes, ça m'a...
Ça vous a marqué.
Oui, oui, ça m'a marqué. Je les aime pour une raison bizarre. C'est parce qu'au début, quand j'étais dans le monde des profs, je me disais, c'est un monde de fous. Et puis, quand je suis entré dans le monde des poètes et des...
C'était encore plus fou.
Oui, et puis je me suis dit, mais ça signifie que je suis deux fois fou.
Si on va chez vous, Melchior, on mange quoi?
La nourriture?
Ouais. Est-ce que c'est burundais? Est-ce que c'est canadien, genre? Est-ce que c'est...
On mange la nourriture des Amérindiens.
Ah oui, hein?
C'est une chose que j'ai découvert, et c'est dans l'un de mes romans.
Oui.
C'est-à-dire, la plupart des choses que nous mangeons ont été apprivoisées par les Amérindiens. Le haricot, le maïs, le manioc. Je mange ce que les premières nations d'Amérique ont produit, ont apprivoisé pour nous.
Oui, les ingrédients.
Sauf certaines choses très rares, comme le... La banane, ça, c'est du sud-est asiatique, ça nous vient de là.
Ben, c'est le fun que vous fassiez le lien avec ça. Tu sais, des fois, on ne s'en rend même pas compte là, qu'on mange finalement quand même la base.
La majorité.
De ce que les premiers peuples d'ici mangeaient déjà. Hein, puis,
pommes de terre. Voilà. La seule chose, les seules choses importantes, c'est le riz, probablement, qui est asiatique. C'est le blé, qui est européen. Et Moyen-Oriental, mais le reste, ça vient d'ici. Ça vient d'ici.
Qu'est-ce qu'on souhaite à Sudbury, en tant que francophone, là? Ça serait quoi votre souhait?
Nous sommes à un moment très spécial. Je leur souhaite une université francophone qui fonctionne. Je dis, c'est un souhait. Je suis dans l'univers du souhait. Je dis que je suis pessimiste. Mais je pas vraiment dire ce que je pense à ce propos.
C'est un beau moment. Vous avez toute la liberté de le
faire. Parce que nous avons une université qui était bilingue, qui s'est effondrée. Pas mal de programmes francophones, y compris le programme de français, qui ont été coupés. Maintenant, nous les francophones, nous pensons que nous pouvons rattraper tout ça en faisant de l'une des universités fédérées, l'université francophone, l'université de Sudbury. Mon problème, c'est que c'est sur le même espace, dans le même environnement, et il ne sera pas possible de ne pas avoir une alliance, une sorte de coopération avec ce qui reste de l'université laurentienne et le danger de cette cohabitation. C'est ce que nous avons vécu pendant tout le reste du temps avant.
Mais c'est ça le gros défi, en fait. La réalité, c'est ça. C'est qu'on est une minorité dans un monde anglophone et il va comme falloir être capable de survivre là-dedans.
Mais oui, mais c'est que les francophones sont siphonnés, littéralement, par les anglophones à l'université. Parce qu'il n'y a plus de programme en anglais. Il n'y a plus de profs. Il n'y a plus de flexibilité. Donc, il n'y a plus de choix. Alors, impossible d'empêcher. Vous ne pouvez pas mettre une loi qui interdit aux francophones de prendre des cours en anglais.
C'est ça.
Ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, je me dis, dans le même contexte, on réédite quelque chose.
J'avais peur que ça... Pourquoi ça n'a pas marché une première fois, pourquoi ça marcherait une deuxième fois, c'est ça. Qu'on répète les mêmes erreurs.
Mais si tu dis ça publiquement, c'est comme si tu...
Perdais d'espoir.
Tu décourages les efforts.
Vous sonnez une sonnette d'alarme et puis peut-être que des fois, ça fait en sorte que les gens sont encore plus motivés. C'est pas nécessairement décourageant de se faire dire, de se faire mettre les points sur les i. Ça peut aussi dire on va être vigilant. On le refait, mais avec une vigilance supérieure. Puis, qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous, jeune retraité que vous êtes ici à Sudbury?
D'avoir toujours de l'inspiration.
OK.
De continuer à être occupé à écrire. Et une chose que j'ai que je n'avais pas avant, c'est le temps. C'est-à-dire, je peux, peut-être, c'est possible, être aussi utile à l'Afrique. Parce qu'avant, j'avais un emploi à plein temps. Maintenant, je peux peut-être m'occuper de l'Afrique, mais ce n'est pas évident non plus. Mais si c'était possible, ça me ferait plaisir.
Il y a toute une communauté africaine à Sudbury aussi. Hein.
Ceux-là,
il ne faut pas les oublier non plus. Hein. Ils ont besoin de vous.
On s'en occupe bien. Ouais. Je crois qu'ils n'ont pas typiquement besoin de moi. C'est bien organisé. Ils sont eux-mêmes organisés. Je crois que ça fonctionne. Peut-être qu'on me taperait dessus parce qu'il y a ça aussi, je crois que c'est dans mon caractère. Je n'ai pas tendance à insister ou à voir ou à me fixer sur ce qui ne fonctionne pas. Je n'ai pas un tempérament revendicateur.
Okay.
En tout cas, en ce qui concerne les choses d'ici, en ce qui concerne les choses de l'Afrique, oui.
D'accord.
Absolument. Mais on dirait qu'il y a une dichotomie. Il y a des personnes qui me font remarquer cela, qu'ici, j'ai une sorte de tradition de pacifiste. J'ai peur du conflit, mais à vrai dire, c'est parce que je crois qu'on ne peut pas s'occuper de toutes les causes en même temps. Et j'ai l'impression qu'au niveau militant, que l'Afrique a mangé toutes mes énergies d'une certaine façon, et qu'à un certain moment, je me suis retrouvé sans pas beaucoup d'énergie à mettre. En écrivant, oui, je participe à la vie d'ici, mais... Je ne fais pas partie du chapitre local de Black Lives Matter. Je ne vais pas battre le pavé avec les Amérindiens dans Idle No More, etc. Je laisse mes enfants faire ça.
C'est comme une nouvelle bataille que vous regardez de plus loin.
Oui, et aussi parce que je crois qu'il faut admettre une certaine division du travail. On ne peut pas être sur tous les fronts. Et alors, il faut en choisir un ou deux. Mais il faut rester reconnaissant envers ceux qui s'occupent des autres fronts que vous abandonnez en vous limitant à un ou deux.
Et je comprends.
C'est inévitable, la division du travail. Et puis, c'est comme ça que je me justifie, en tout cas.
Une chanson qui vous inspire beaucoup d'ici. Il y a des artistes que vous aimez en chanson.
Fais du feu dans la cheminée.
Ah,
je reviens chez moi. Fais du feu.
Feu dans la cheminée.
Je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout.
Je l'aime beaucoup.
C'est vrai que c'est une belle chanson. Et puis, vous allez mourir ici, Melchior, ou vous retournez en Afrique?
Pour mourir?
Ouais.
Et on ne choisit pas où on meurt d'abord?
Non, mais... Dans votre volonté, imaginez que vous avez la capacité de choisir où vous mourrez. Ça se passe ici ou ça se passe en Afrique de l'Est, au Burundi?
Je crois que ça se passerait en Afrique.
Ah oui?
Ouais. Parce que là où on a perdu son cordon ombilical, ça vous tient d'une certaine façon. Mais, mais j'ai eu des problèmes au début quand je suis arrivé ici, parce que nous étions des Africains de diverses origines. Il y en a qui venaient de l'Afrique de l'Ouest, il y en a même de l'Afrique de l'Est. Il y avait, nous provenions de tribus qui ne vivent pas, ou qui ne pensent pas, ou qui n'ont pas des traditions semblables à propos de la mort. Et on s'est retrouvés deux ou trois fois avec des individus qui mouraient ici et qui, dans leur testament, avaient exigé d'être rapatriés pour être enterrés au village. Moi, je ne comprenais pas, parce que dans ma tradition, il y a même un proverbe qui le dit, la terre est maternelle partout. La terre peut t'accueillir partout.
Donc, si vous mourrez ici, ça va se passer ici.
Oui, ça, c'est ma mentalité, d'accord. C'est la mentalité de mon peuple. Mm-hmm.
La terre est mère partout, c'est ça que vous avez dit.
Ouais, ouais.
Je trouve que c'est vraiment... ça finit bien cette entrevue, je trouve, je dirais, comme enseignement de la part d'un professeur émérite. Je vous remercie beaucoup, Melchior, de cet entretien.
Merci de m'avoir invité.
Au revoir. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.